Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 15 juillet 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran, au carrefour des corridors régionaux de transit, un tournant pour l'économie nationale. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les États-Unis paieront pour leur recours à la force contre l'Iran. Amir Abdullahian s'en prend à la déclaration conjointe de Biden et Lapid. Le spectacle de marionnettes Washington-Tel Aviv rend Téhéran encore plus déterminé, a dit le très haut diplomate iranien. Verdict illégal contre Hamid Nouri, un ressortissant iranien. Téhéran convoque l'ambassadeur de Suède. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Un porte-parole des forces armées iraniennes a mis en garde les États-Unis contre leur rhétorique contre la République islamique d'Iran. Cela est venu après que le président américain Joe Biden a déclaré qu'il était prêt à utiliser la force contre l'Iran au sujet de son programme nucléaire. Le général de brigade, Abolfaz Shekarchi, a déclaré que les États-Unis paieraient le prix cher un tel langage et leur guerre psychologique contre l'Iran. Cette haute autorité militaire iranienne, évoquant la destruction de la base militaire des États-Unis Ayn al-Assad en Irak et le retrait d'Afghanistan humiliant, leur a conseillé de revoir leur politique usée et de tirer les leçons de leurs échecs antérieurs. Le général brigadier a également déclaré qu'en ayant recours à la guerre des nerfs, Washington tente de réparer sa suprématie en déclin et de ralentir aussi le processus d'effondrement du régime usurpateur israélien. Le président américain Joe Biden a proféré la menace contre l'Iran lors de ses entretiens avec le premier ministre israélien Yair Lapid jeudi. Les États-Unis et Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire et qui n'est donc pas soumis au contrôle des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, accuse l'Iran de chercher une bombe nucléaire. Téhéran, signataire du TNP, a à maintes et maintes reprises rejeté les accusations. Israël posséderait entre 80 et 400 ogives nucléaires, le nombre exact n'étant pas divulgué officiellement, car le régime sioniste refuse de reconnaître l'existence de son programme nucléaire à des fins militaires. Pourtant, personne dans le monde n'ignore que l'entité d'occupation s'est dotée de l'arme atomique en 1967, notamment grâce à l'aide de ses amis occidentaux, dont la France, et qui a créé sa bombe atomique au nez des États-Unis. Amir Abdullahian s'en prend à la déclaration conjointe de Biden et Lapid. Le spectacle de marionnettes Washington-Tel Aviv ne rend que plus déterminé Téhéran. Nous ne nous transigerons jamais sur les droits inaliénables de la grande nation iranienne et sans aucun doute le spectacle de marionnettes de la Maison-Blanche et du régime sioniste dans la région nous rend plus déterminés, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. selon le département de politique étrangère de l'IRNA, Hossein Amir Abdollahian a écrit sur son compte Twitter « La République islamique d'Iran poursuit son chemin avec force et logique sur la voie du développement économique durable et mène des efforts honorables pour annuler les sanctions. Nous ne négligerons jamais les droits inaliénables de la grande nation iranienne », a souligné le chef de la diplomatie iranienne. Le très haut diplomate a poursuivi « Parvenir à un bon accord solide et stable est notre objectif. Sans aucun doute, la marionnette de la Maison-Blanche et du sionisme dans la région nous rend plus déterminés. » Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien par intérim Yair Lapid ont signé une déclaration commune concernant le statut du partenariat stratégique, dont une partie comprend l'engagement officiel des États-Unis et de ce régime concernant la revendication imaginaire anti-iranienne et permanente d'empêcher l'accès de Téhéran à une arme prétendue nucléaire. Dans cette déclaration conjointe, publiée jeudi sur le site internet de la Maison-Blanche, il est indiqué que, conformément aux relations de sécurité de longue date entre les États-Unis et Israël et à l'engagement ferme de Washington en faveur de la sécurité de ce régime et en particulier de maintien de sa supériorité militaire, Washington s'engage à renforcer la capacité de Tel Aviv à dissuader ses adversaires et à se défendre, dixit, contre toute menace ou combinaison de menaces. Cette déclaration anti-iranienne ajoute, les États-Unis soulignent que l'une des composantes de cet engagement est d'empêcher à jamais l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et les États-Unis sont prêts à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour y parvenir. Dans une autre partie de ses déclarations anti-iraniennes, Washington s'est engagé à coopérer avec des partenaires autres que le régime sioniste pour contrer ce que les dirigeants américains et sionistes ont appelé les actions hostiles et les prétendues activités déstabilisatrices de l'Iran, soit directement, soit par l'intermédiaire de groupes et d'organisations tels que le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires suédois à Téhéran pour protester vigoureusement contre la condamnation à perpétuité prononcée par un tribunal suédois contre le ressortissant iranien Hamid Nouri. L'Iran a qualifié la décision d'illégale et de contraire au droit international et à la souveraineté des États, ajoutant que le tribunal n'était pas compétent pour s'occuper de l'affaire. Le ministère iranien a déclaré que les preuves présentées au tribunal avaient été fournies par un groupuscule terroriste anti-Iran appelé OMK, un groupe terroriste qui est à l'origine du meurtre de plus de 17 000 Iraniens. La diplomatie iranienne a également critiqué le tribunal suédois pour avoir donné une plateforme aux terroristes. Pour elle, la décision était une tentative de blanchir les activités terroristes de l'OMK. Selon le ministère, le ressortissant iranien est victime de la torture blanche qui n'agresse pas directement le corps. En s'attaquant aux cinq sens, soit l'intégrité psychique d'une personne, elle reste invisible à l'œil nu mais laisse des traces psychologiques indélébiles. Enfin, la marine iranienne dévoile sa première flotte de porte-drones. La première flotte de porte-drones de la marine iranienne a été dévoilée en présence du commandant-chef de l'armée, le général de division Amir Moussavi, dans la flotte sud de la marine. La première flotte de porte-drones de la marine iranienne, composée d'unités de surface et sous-marines transportant tous les types de drones de combat, de renseignement et de destruction, a été dévoilée dans la flotte sud de la marine stratégique de l'armée de la République islamique d'Iran et avec la présence du commandant en chef de l'armée, le commandant de la marine stratégique de l'armée, ce vendredi. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran, au carrefour des corridors régionaux de transit, un tournant pour l'économie nationale. le directeur général du bureau de logistique de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, a déclaré que l'Iran peut devenir le hub du transit de marchandises dans la région et a déclaré « La massive fréquentation des cargos commerciaux des pays d'Asie centrale, de l'Inde et de la Chine en Iran, malgré les sanctions mondiales, indique que la route de transfert des marchandises via l'Iran sont très attrayantes et abordables. » Ali Emami a déclaré dans une interview accordée au journaliste économique de l'IRNA, Dixit, l'économie mondiale a subi de graves dommages après la propagation du coronavirus. L'un de ces dommages était l'interruption et la fluctuation de la chaîne d'approvisionnement des marchandises qui étaient facilement transportées de la Chine à la destination de l'Europe. Déclarant que cet axe traditionnel d'approvisionnement des marchandises vers l'Europe est devenu problématique en raison de la propagation du coronavirus, ce responsable iranien a ajouté « C'est pourquoi le monde cherchait de nouvelles voies de transit. Une petite partie des nouvelles routes ont été créées en mer, mais la plupart d'entre elles ont été envisagées à terre », a-t-il dit. Cette autorité économique a ensuite s'attardé sur la possibilité pour l'Iran de jouer un rôle important dans le transfert de marchandises et de répondre aux besoins d'autres pays. Le directeur général du bureau de logistique de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, soulignant qu'une partie importante des biens nécessaires au monde sont produits en Chine, a noté « Le problème est que la plupart des usines fonctionnaient dans l'ouest de ce pays, mais il y avait une faiblesse économique à l'est. Le gouvernement chinois a défini de nouvelles routes de fret pour le développement économique de ces régions de la Chine de l'est. » Se référant à 6 voies de connexion entre la Chine et l'Europe, M. Emami a déclaré « La Chine prévoit d'ouvrir de nouvelles routes pour le transfert de marchandises vers l'Europe en ouvrant de nouvelles routes à travers l'Iran, la Russie, le Turkménistan et l'Arménie. Mais après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, certaines routes ont rencontré des problèmes. » D'autre part, la Russie, en tant que principal fournisseur de céréales au monde, a subi de nombreux problèmes dus à la guerre en Ukraine, a souligné M. Emami. Le directeur général du bureau de logistique de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce a poursuivi « En raison de la création de toutes ces conditions, une opportunité serait offerte à l'Iran de jouer un rôle encore plus important dans le transit de marchandises et de répondre aux besoins des autres pays. L'importance de l'Iran dans l'axe de transit des marchandises depuis l'Inde, la Chine, la Russie et le Kazakhstan vers l'Europe, l'Iran est en mesure de transférer des marchandises de l'Inde, de la Chine, de la Russie et du Kazakhstan vers des destinations telles que l'Europe, qui comprend des corridors est-ouest et nord-sud, a noté Emami. L'Iran peut devenir la plaque tournante logistique de la région. L'Iran peut devenir le carrefour de transport de marchandises et de la plaque tournante logistique de la région et être considéré pour le transport rapide et rentable de toutes sortes de produits tels que les céréales, les minéraux et même les produits pétroliers, a encore précisé M. Emami. Déclarant que l'Iran est dans une position où il peut bénéficier de transit comme une bonne source de revenus, il a déclaré le développement économique peut être réalisé en augmentant les capacités iraniennes dans le domaine des corridors régionaux. Selon ce responsable de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, si une bonne planification est effectuée, la traversée des corridors régionaux sur le sol iranien peut être considérée comme un tournant pour le développement économique du pays et certains succès ont été déjà réalisés jusqu'à présent à cet effet.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Ces derniers jours, le tandem américano-sioniste a multiplié ses manœuvres dans la région du Moyen-Orient dans le cadre de l'établissement d'un système régional de défense aérienne en collusion avec certains régimes arabes à riverains du Golfe Persique. Et bien entendu, alors la prochaine visite du président américain Joe Biden s'inscrit dans ce cadre et l'entité israélienne profitant de la normalisation avec certains pays arabes de la région, en effet, tente de donner un coup d'accélérateur à ce plan qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la création d'une OTAN arabo-israélienne. Et pourtant, la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance en général a menacé en effet de riposter avec force à toute manœuvre dans ce sens. Et bien entendu, en effet, des divergences de vues persistent toujours dans ce contexte parmi les pays de la région qui craignent en effet cette riposte ferme de la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce projet américano-sioniste. Les tentatives, en effet, de certains pays de la région et, bien entendu, alors la visite du président américain dans la région et la perspective des évolutions à venir dans ce cadre, dans le cadre de la création, en effet, de cette OTAN arabo-israélienne basée sur la DCA intégrée pour faire face à la présumée menace des balistiques et des drones de la République islamique d'Iran. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Sur fond d'appels de détresse lancés ces dernières heures depuis le Caire et Doha en direction de Gaza, appel qui supplie la résistance palestinienne de ne pas tirer profit de l'occasion inouïe qui se présente à elle et qui consiste à lancer une toute petite salve de 3 roquettes de garage. Pour reprendre l'expression du ministre ukrainien de la Défense contre Tel Aviv, ou faire envoyer ses commandos de Jenin faire sauter un petit pétard en plein Rots, rien que bien réveiller le somnambule Biden qui arrive d'ici les heures à venir et lui rappeler que sa présence en Palestine occupée, où il veut lui aussi, comme ses prédécesseurs, éviter le naufrage d'Israël, ne servirait à rien. Le sioniste Lieberman, ex-chef de la guerre et de la diplomatie, vient de faire un terrifiant aveu qu'on a toutes les raisons du monde de croire ne pas être venu que de lui. En lieu et place d'une défense aérienne composée de radars d'alerte précoce, de missiles intercepteurs US-Israël répartis quelque part entre Manama, Abu Dhabi, Riyad et Tel Aviv, une DCA qui marcherait à partir d'une base de partage de données numérisées qui permettrait de faire du ciel des normalisateurs, sorte de couches superposées propres à protéger, le moment venu, les territoires occupés de la Palestine contre des milliers de drones et de missiles de la résistance. Le sioniste propose un marché économique commun où prendraient part outre Bahreïn, Émirats et éventuellement l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, un marché interconnecté par voie ferrée qui pourrait, dit Lieberman, nous apporter économiquement et sécuritairement. Le fait que le gourou sioniste qui défendit en 2009 une frappe nucléaire contre Gaza et qui recommandait de faire noyer les Palestiniens en Méditerranée en soit venu à réduire un aussi ambitieux plan militaire de nature à générer des milliards de pétrodollars pour Israël en un marché commun. Cela équivaut à une grosse marche arrière. D'ailleurs, il n'est pas le seul. De Washington à Tel Aviv, cette OTAN anti-Iran axée sur une DCA intégrée semble faire bien plus de peur à ses initiateurs qu'aux partis visés, en l'occurrence l'axe de la résistance. Au point tel que l'Institut Quincy tire la sonnette d'alarme à l'adresse de Biden et le met en garde. contre toute provocation à l'adresse de l'Iran et de ses alliés. Un système de défense commune qui exclurait l'Iran fera du tort à l'US Army et ses troupes. Un nombre important d'analystes déconseillent au président Biden d'avancer des plans qui entraîneraient de mauvaises conséquences pour Washington, invitant ce dernier à ne jamais songer à provoquer l'Iran et ses alliés via notamment un soutien au projet d'un bouclier de défense aérienne commune. Car de Yémen à Gaza, l'Amérique lourdement impliquée dans la guerre contre la Russie en Ukraine a besoin d'une accalmie totale au Moyen-Orient qui reste en dépit de toutes les prévisions de ces dernières années sur le pétrole de schiste et les capacités à en produire la source immédiate de l'énergie pour l'Occident. Un bouclier antimissile anti-drone s'est déjà se placé en une posture défensive, comme pour rappeler à ceux que le camp d'en face y réagisse. Les quatre années de Trump à l'échec de la politique de pression maximale l'ont prouvé, l'Iran et ses alliés rognent les freins pour réagir.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités. Pour cette émission, nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris avec Mme Maïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Je suis à Damas, en fait.
Très bien.
Bonjour aussi à l'équipe, à vous-même et à M. Luc Michel.
Madame Armidani, l'actualité régionale largement dominée par ce projet américano-israélien d'établir une DCA intégrée qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre alors d'une OTAN arabo-israélienne sous l'impulsion, bien entendu, de l'administration américaine. Et dans ce contexte, la visite du président américain, bien entendu, s'inscrit dans ce cadre. Alors, selon de nombreux analystes, ce projet du tandem américano-israélien de créer une DCA pour faire face à la présumée menace iranienne s'avère irréalisable. Pourquoi?
En fait, Biden se dépêche d'aller dans le Moyen-Orient pour différentes raisons. D'abord, selon certaines revues américaines, ils disent que c'est pour rectifier aussi sa politique au Moyen-Orient, parce qu'apparemment, il a commis beaucoup d'erreurs, notamment avec l'Arabie saoudite. Il a réussi à antagoniser Mohammed bin Salman, qui a commencé à avoir des relations avec la Chine et avec la Russie. Il a antagonisé aussi d'autres responsables du Moyen-Orient, notamment les Émirats ou surtout aussi le roi de Jordanie. En fait, ils se dépêchent d'y aller. Ça, c'est selon les analyses d'une revue américaine. D'un autre côté, on sait que d'abord, Biden, il y a des élections rapidement au début de l'automne. Il perd beaucoup en popularité et aussi en confiance au niveau des Américains et au niveau surtout de l'AIPAC. Donc, il va essayer de se donner le moyen d'avoir ses soutiens, surtout de l'AIPAC, d'abord en visitant Israël et l'État fantoche d'Israël qui occupe la Palestine, et aussi essayer de le protéger autant que possible, donc par la création d'une coalition qui a commencé déjà avec Trump, rappelons-le, avec Bahreïn, avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite en sous-table, mais maintenant elle est très clairement, et surtout avec la Jordanie. Il faut savoir aussi que l'agression contre la Syrie se situait aussi dans ce cadre, puisque c'était à la demande aussi d'Israël, à la fois l'agression contre la Syrie, mais aussi l'agression contre le Liban en 2006, qui visait particulièrement le Hezbollah. Donc en fait, toutes ces manœuvres ont eu beaucoup d'échecs, Et puis maintenant, donc, il essaye de rétablir aussi la situation en s'alliant à nouveau les Israéliens, mais avec, en s'alliant à nouveau Mohammed bin Salman, en fait, le responsable saoudien, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, et puis la Jordanie aussi, ajoutant le Maroc et l'Égypte, hein, et avec tout ça avec Israël. En fait, tout ça pour rassurer Israël d'un côté, de l'autre côté, et pour couper le chemin aux accords et aux alliances, je dirais, iraniennes avec la Chine et avec la Russie, mais et surtout donc pour mobiliser tous ces pays contre l'Iran en créant une sorte d'ennemi fictif, parce que l'Iran n'a jamais été ennemi avec aucun pays de la région. L'Iran a toujours été un pays ami, et même avec ceux qui lui vouaient certaines inimitiés, comme l'Arabie saoudite et comme les Émirats arabes unis, ben, ils ont toujours présenté, l'Iran a toujours tendu une main, de dialogue et puis de coopération, en mettant en avant l'aspect le plus important, c'est que la sécurité dans la région doit se faire par les pays de la région et sans aucune intervention extérieure. Bon, bien sûr, l'État fantoche d'Israël lève le drapeau de l'arme nucléaire iranienne, alors que l'Iran a affirmé à plusieurs reprises haut et fort que de toute façon nous n'irons pas à l'arme nucléaire, parce que d'abord ce n'est pas du tout dans notre éthique, c'est pas parce que vous l'interdisez, mais c'est parce que ce n'est pas du tout dans notre éthique, et parce que il y a eu Khamenei, l'ayatollah Khamenei aussi a affirmé à plusieurs reprises que ce n'est pas du tout dans la logique de l'islam. Donc, en fait, c'est créer de toutes pièces un ennemi, et pour agiter la peur et agiter aussi la nécessité de se faire aider par tous ces pays occidentaux pour qu'ils persistent dans la
région. Merci, Madame Médani. Je vous remercie infiniment. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à votre équipe, et bonjour Madame Midani, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Monsieur Michel,
il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y avait une contradiction interne qui agitait le bloc américano-atlantique en Europe et en Afrique, c'est que l'allié géopolitique principal, c'était l'adversaire économique principal, c'était la guerre économique Europe-Union européenne, qui est doublée de la guerre entre l'euro et le dollar. Mais à l'occasion du dossier ukrainien, cette contradiction interne s'est étendue au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des États sur lesquels les États-Unis comptaient pour former l'alliance qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient autour d'Israël se sont détournés du bloc occidental. Il y a eu le sommet des États producteurs de gaz à Doha, avec l'Iran, avec la Russie, avec des États africains comme l'Algérie, la Guinée équatoriale, avec également le Venezuela. Et lors de ce sommet, à la grande surprise des Américains, le Proche-Orient n'a pas suivi les Américains dans leur hostilité à la Russie, mais au contraire, les Émiratis et les Qataris se sont rangés du côté des États producteurs de gaz pour reprendre le contrôle du marché du gaz. Parallèlement à cela, les Saoudiens, qui sont en liaison avec les Russes depuis plus de 2 ans, soutiennent également les Russes dans la guerre du pétrole. À partir de ce moment-là, les États-Unis tentent de rattraper le coup, c'est-à-dire de reconstruire sur une soi-disant menace iranienne qui est purement virtuelle et qui n'existe que dans les fantasmes de la propagande de Washington et de Tel Aviv, notamment sur l'arme atomique, comme Mme Mitani l'a dit. L'Iran a toujours précisé que pour des raisons éthiques, ils ne voulaient pas de l'arme atomique. Eh bien, on essaye donc d'aligner les anciens États arabes pro-occidentaux derrière Israël et les États-Unis sur la, soi-disant, la menace israélienne. Il faut annoncer qu'il y a un deuxième facteur dont Mme Midani a parlé également, c'est les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis et qui vont peut-être être remportées par Donald Trump et les Républicains qui sont alliés à l'aile radicale, notamment avec le gendre de Trump, Jared Kushner, à l'aile radicale pro-israélienne de l'AIPAC. À partir de ce moment-là, il faut que Biden se présente en ami d'Israël et qu'il démontre son efficacité, c'est-à-dire en alignant une alliance arabe derrière les Israéliens.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, M. Michel. Madame Midani, M. Michel l'a rappelé, alors Américains et Israéliens tentent d'aligner certains pays arabes de la région sur leur politique hostile à l'égard de l'Iran, sur leur politique d'iranophobie. Et pourtant, alors, les pays arabes sont de plus en plus nombreux, en effet, à prendre en quelque sorte leur distance avec ces politiques. À se rendre à l'évidence, en quelque sorte. Et dans ce contexte, tout récemment, dans une interview, le premier ministre jordanien a souligné que l'Iran n'a jamais été une menace, en effet, pour la région et pour la Jordanie. Ceci étant dit, Madame Midani, alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors, la véritable menace dans la région, c'est Israël. Alors, les agressions israéliennes contre la Syrie, les agressions quasi quotidiennes du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens, alors la violation de l'espace aérien libanais, l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens. Est-ce que ces tentatives, malheureusement, ne servent pas en quelque sorte c'est-à-dire en d'autres termes, pourquoi, alors je pose ainsi la question, pourquoi certains pays arabes, en effet, continue malheureusement de se laisser prendre dans le piège du tandem américain-israélien.
Bonne question, exactement, parce que ces États qui prennent des positions comme ça, juste à côté des Israéliens, en fait, ils se soumettent aux diktats américains et aux pressions américaines et européennes, négligeant eux-mêmes leurs propres intérêts et surtout les intérêts de leur peuple. Parce que, comme vous l'avez exactement et très justement dit, la cause non seulement de l'instabilité, mais de l'agression, et qui est la pointe de l'agression dans toute la région, c'est cet État fantoche d'Israël, qui a été construit sur la Palestine, en fait, en commençant par des massacres, des grands massacres, effectivement provoquant des exodes de la population, en se faisant aider, rappelons-le quand même, par l'impérialisme britannique et l'impérialisme français à l'époque. C'est aussi ça, que tous les peuples de la région sont complètement, vraiment mobilisés contre Israël, que cet État ne pouvant jamais s'intégrer, non seulement être accepté par les populations, mais il ne peut jamais s'intégrer dans la région. D'où cette manifestation ou cette nouvelle politique qui a été entamée par Trump, qui est de dire on va créer des États, ces États arabes, on va les obliger à créer un pacte avec l'État israélien. Et on va les obliger à être à côté de lui et les reconnaître, etc. Certains pays se sont soumis à ces pressions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples, leur propre peuple, refusent complètement, ce qui a fait qu'ils y sont allés pas à pas, ça d'une part. Et puis d'autre part aussi, maintenant l'Afghanistan, en fait, ce qui s'est passé en Afghanistan, où les Américains ont même laissé tomber leurs alliés comme des vieilles chaussettes, je dirais. Bon, ça a alerté tous leurs alliés dans la région, y compris donc qui n'avaient absolument aucune emprise populaire, mais ce sont les chefs de ces États qui ont été alertés et qui ont commencé à vouloir changer d'allié parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'allié américain. De la même manière, d'ailleurs, les alliés européens ont commencé aussi à s'éloigner des États-Unis, ce qui a fait que pendant cette... ce qui a fait, c'est qu'ils ont effectivement commencé cette guerre en Ukraine aussi pour déstabiliser, non seulement pour déstabiliser la Russie, déstabiliser l'Ukraine et la région européenne, mais aussi remobiliser à leur côté l'Union européenne qui commençait à prendre le large et à avoir des relations avec la Russie, la Chine, qui sont des relations de normales, et pas du tout d'égal à égal entre deux pays qui se reconnaissent. Et puis, donc, effectivement, l'ensemble de la région, l'ensemble de notre région, les agressions qui ont eu lieu contre la Syrie, contre le Yémen, comme vous l'avez bien justement d'ailleurs souligné, le point de provocation, le foyer de provocation le plus important, c'est effectivement cette entité israélienne qui est créée de toutes parts et acceptée.
Merci.
Pourquoi les États qui sont à la solde des Américains l'ont accepté jusqu'à présent? Bon, ben, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ils se sentent un peu plus forts puisqu'ils ont des rapports avec la Russie, des rapports avec la Chine, qui sont des rapports autrement que des rapports vassalisants, de maître à vassal, comme le fait les États-Unis. Ce sont des rapports d'égal à égal, reconnaissant la souveraineté des
Merci
pays.
Merci infiniment, Madame Bidani. Je vous remercie infiniment. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, donc, alors certains pays arabes de la région sont soumis aux pressions américaines. Ouais. Pourtant, alors, ils craignent, comme d'ailleurs l'entité israélienne, alors la riposte ferme de la République islamique d'Iran. D'autre part, alors, compte tenu du positionnement de la Russie et de la Chine sur les évolutions moyen-orientales, alors, quel sera l'avenir et le sort de cette DCA, de cette prétendue DCA intégrée que l'entité israélienne et les États-Unis cherchent à établir dans la région du Moyen-Orient?
Il y a un double paramètre. Il y a tout d'abord le paramètre stratégique, c'est-à-dire que jusque maintenant, il y a une espèce de parité stratégique entre l'axe de la résistance et les sionistes, c'est-à-dire que ce soit le dôme de fer ou les chasseurs israéliens, ils n'ont plus la maîtrise du ciel du Proche-Orient. C'est un premier critère, évidemment, qui va contre cette DCA intégrée. Mais la deuxième paramètre à prendre en considération, c'est ce qu'on peut appeler le paramètre Vladimir Poutine. Depuis maintenant les débuts de l'opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine a seulement un objectif en mer Noire et en Ukraine régionale. Il a un objectif géopolitique central qui est d'arriver au monde multipolaire, de mettre à mal le nouvel ordre mondial américain. Et donc, il est intervenu dans cette nouvelle, en particulier au Proche-Orient, il a mis à mal les plans américains. Les experts israéliens eux-mêmes, mais les experts russes aussi, disent que Poutine est le tsar du Proche-Orient, que c'est l'arbitre géopolitique de la région. C'est donc déterminant. C'est tout cela qui doit être pris en compte. C'est évidemment une révolution géopolitique qui a été commencée avec l'opération spéciale en Ukraine.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Madame Aïssar Bidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
G20, l'Union européenne en qualité de grande perdante. L'actualité internationale, et notamment le récent sommet du G20 en Indonésie, ont largement démontré que les pays ayant assumé leur statut de satellite et de sous-traitant n'auront pas d'avenir sur le devant de la scène mondiale. L'Union européenne passe donc du statut d'un nain géopolitique à simplement celui d'un bloc de facto inexistant dans les grandes affaires internationales. Problèmes économiques et sociaux qui ne cessent de monter en puissance dans nombre de pays de l'Europe bruxelloise, chute brutale de la monnaie européiste, tout cela n'est que la confirmation d'un processus qui a en fait débuté depuis un bon moment déjà. Ayant longtemps prétendu à se présenter comme étant un bloc puissant, l'Union européenne ne représente aujourd'hui que la désillusion la plus totale. Le récent sommet du G20 à Bali en Indonésie a eu également et largement le mérite de remettre les choses au clair. D'abord, Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, qui reconnaît que l'Union européenne n'est pas en train de gagner dans la bataille narrative mondiale sur l'Ukraine, y compris dans le cadre justement du G20. En ce qui concerne le maître de l'Occident collectif, à savoir les États-Unis, celui-ci n'a pas réussi ni à écarter Moscou de la participation du dernier sommet du G20, ni à imposer son agenda à Pékin. Les événements protocolaires que les représentants occidentaux avaient décidé de boycotter en raison de la présence du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont pu parfaitement se dérouler sans la dite présence occidentale, confirmant d'ailleurs la thèse annoncée avec amertume par le déjà cité Joseph Borrell. Mais si les États-Unis, subissant échec après échec, ont néanmoins réussi à maintenir leur position de souverain du bloc occidental, le bloc européiste bruxellois aura confirmé ce que représente réellement la notion de médiocrité. Car si Washington a effectivement énormément à perdre dans le développement actif de l'ordre multipolaire international, y compris avec la perte du statut d'hégémon mondial, l'Union européenne avait une occasion de s'adapter et de s'intégrer, ne serait-ce que progressivement, aux règles issues de la multipolarité. En préférant suivre aveuglément l'agenda outre-Atlantique, l'Union européenne confirme être la grande perdante et certainement celle qui subira les plus larges revers dans la bataille décisive entre les partisans de l'ère multipolaire et les nostalgiques de l'unipolarité. Rappelons que dans la chute d'une entité, ce sont bien souvent les sous-traitants qui payent les premiers frais pour le compte du maître. Si cela est aujourd'hui de plus en plus difficile à nier, l'autre aspect des plus importants étant celui que personne ne prend désormais au sérieux le positionnement de l'Union européenne à l'échelle internationale. Bien souvent, les pays et les différentes régions du monde comprennent aujourd'hui que s'il y a une quelconque utilité encore à parler à l'Occident, autant le faire directement avec Washington au lieu de passer par un groupe sous-traitant. Dans cette perspective et au-delà de l'avènement de l'ordre multipolaire post-occidental, dans lequel l'Occident devra progressivement apprendre à vivre en qualité d'une extrême minorité planétaire, avec tout ce que cela implique, l'Europe bruxelloise commence déjà à disparaître en qualité de bloc ayant son mot à dire dans les affaires internationales contemporaines, confirmant ainsi le passage du statut de nain géopolitique à celui d'une entité inexistante.
Parole d'expert.
Le président américain Joe Biden est arrivé aujourd'hui en Palestine occupée dans le cadre d'une tournée régionale qui le conduira également en Arabie Saoudite où il devrait demander une augmentation de la production de brut dans le but d'atténuer la crise énergétique que s'est infligée l'Occident. Que fait Biden au Moyen-Orient et quels sont les enjeux de sa visite dans la région? Maître Arnaud Develay, juriste et analyste politique, nous répond.
Alors, vous l'avez mentionné, effectivement, Joe Biden se rend dans la région où il est aujourd'hui, effectivement, en visite en Palestine occupée avec le gouvernement israélien, un gouvernement israélien déjà sortant, puisque une loi a été passée récemment à la Knesset appelant à l'organisation d'un scrutin dès le mois de novembre, ce qui pourrait voir le retour de Benjamin Netanyahou, qui est un très très bon ami du prince héritier saoudien. Et dans ce contexte-là, cette visite de Biden, en fait, enfin c'est pas vraiment Joe Biden, mais l'État profond, le lobby sioniste, et quelque part les lobbies de l'armement et les libéraux interventionnistes, dont font partie beaucoup de hauts fonctionnaires du département d'État, et ce sont eux qui mènent la politique américaine bien comprise. Et donc cette visite, elle a pour lieu, pour but, si je puis dire, de baliser un peu le chemin qui mènerait à une normalisation entre Tel Aviv et Riyad. Normalisation qui suit déjà son cours depuis quelques années. On a vu beaucoup d'exemples de ce type avec des visites de hauts responsables sionistes en Arabie Saoudite de manière officieuse, avec en point d'orgue la visite plus ou moins cachée, mais qui n'était pas cachée, qui était en fait parfaitement produite par l'establishment sioniste. En novembre 2020, près de Jeddah, entre Benjamin Netanyahou et MBS, comme on l'appelle. Donc la situation maintenant est la suivante. Biden, lui, va quémander une augmentation de pétrole pour essayer de faire baisser les prix à la pompe de manière au moins symbolique, parce que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite ait les moyens, ni même l'intention d'aider Joe Biden. Elle préfère attendre le retour. Alors, on verra si c'est Trump ou quelqu'un, en tout cas, qui... s'apparente à l'administration Trump, ça pourrait être Mike Pompeo. Toujours est-il que l'administration démocrate est absolument exécrée par Riyad. Et donc, on verra ce qu'il en ressort. Je pense que cette visite sera un échec, un fiasco, voire même un fiasco, puisque tout ce que touche Joe Biden est un fiasco. Et on peut penser que... ces demandes, la plupart d'entre elles ne seront pas ouvertement rejetées, mais en tout cas officiellement prises en considération, que pour alimenter l'esprit, entre guillemets, qui doit prévaloir, à savoir le rôle pour Biden de jouer un petit peu le raccord entre Tel Aviv et Riyad, lui vaudra des promesses. Voilà, lui vaudra... une poignée de main, une photo opportunité avec MBS, dans un cadre extrêmement bien réglé en termes de communication qui sera celui du sommet de la coopération des États du Golfe, bien sûr, de façon à ce qu'il puisse avoir une façon de pouvoir narrer ce qui semble être quelque part un désaveu de sa propre politique, puisqu'il avait appelé à transformer le royaume saoudien en paria durant sa campagne électorale. Donc, on s'aperçoit que quelque part en plus, l'idée c'est de créer un compact, on a parlé d'un OTAN arabe depuis plusieurs mois déjà. On sait déjà que les Égyptiens ne sont pas chauds, que les Jordaniens non plus. Ils l'ont fait savoir indirectement par des déclarations successives de leur ministre des Affaires étrangères et de leur premier ministre il y a à peine deux jours. et que ces deux pays ont des liens bilatéraux avec la République islamique d'Iran, qu'ils n'ont absolument pas l'intention de mettre à mal, et ils ne souhaitent pas être les outils d'un quelconque OTAN, de telle sorte que ils se retrouvent dans la situation de l'Ukraine qui en fait est jetée en pâture au nom des intérêts américains, et derrière les intérêts américains on peut penser les intérêts mondialistes, hein, parce que les États-Unis en tant que tels n'existent plus vraiment en tant que pays souverain, mais comme beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs.